Merci Anne, la grande table d'été comme tous les jours. Deux parties, la première est une table ronde autour de Lucky Luke qui fête ses 70 ans, puis un portrait du violoncelliste Henri de Marquette et au milieu, une session, elle sera électro et chant, ce sera buvette. Mais tout de suite, il est 12h30 et c'est l'heure du journal de la rédaction. Journal présenté par Ludovic Piétenu. Bonjour Ludovic.
Bonjour Lucille, bonjour à tous. Une fusillade dans une boîte de nuit en Floride. 2 morts et 14 blessés aux premières heures du jour, nous dira Camille Revel. Le réveil est donc brutal aux États-Unis comme en Allemagne. Une nouvelle fois touché par la violence en l'espace de quelques jours en Bavière. Un réfugié syrien s'est fait exploser hier soir à l'entrée d'un festival de musique, blessant 12 personnes. Il souffrait de troubles psychiatriques, a déjà tenté par deux fois de se suicider. C'est sur ce point que nous allons nous arrêter dans ce journal avec Willy Moreau. En France, la droite niçoise veut la démission. Démission du ministre de l'Intérieur après le drame du 14 juillet, polémique politique. Manuel Valls et François Hollande montent au créneau ce matin pour défendre, disent-ils, un homme intègre. Une policière municipale de Nice maintient pourtant ses accusations d'avoir subi des pressions de Paris, portrait de celle qui accuse avec Marie Bonisseau. Où en est la Turquie 10 jours après le putsch raté contre Erdogan? Cécile de Kervas-Doué fera le point pour nous. Le président turc poursuit sa répression après les policiers, les magistrats, les militaires ce matin. Ce sont les journalistes qui sont visés. Au moins 2 morts et 14 blessés dans une fusillade en Floride aux États-Unis. C'est la dernière minute de cette matinée. Les faits se sont déroulés, Camille Revel, aux abords d'une boîte de nuit de Fort Myers.
Oui, les premiers coups de feu ont éclaté peu après minuit et demi, heure locale, donc il y a maintenant 6 heures, sur le parking de cette boîte de nuit nommée Club Blue, dans cette ville de l'ouest de la Floride. Selon les premiers éléments, cette fusillade a eu lieu pendant une soirée ouverte aux jeunes adolescents dans la boîte de nuit, sans contrôle de carte d'identité ni donc de l'âge à l'entrée. Les victimes n'ont pas encore été identifiées. Le pronostic vital de certains blessés est engagé. 3 personnes soupçonnées d'être liées à cette fusillade ont été arrêtées. On ne sait pas encore combien de tireurs sont impliqués. D'autres coups de feu ont été tirés à quelques centaines de mètres de la boîte de nuit, selon la chaîne américaine NBC qui cite la police locale. La police locale, elle assure que la situation est maintenant sous contrôle à Fort Myers. Les alentours de la boîte de nuit restent bouclés par les enquêteurs. Ils quadrillent la zone à la recherche d'autres suspects. Pour l'heure, les motifs du ou des tireurs sont inconnus.
Camille Revel, ce nouvel épisode de violence se produit à quelques heures de la convention d'investiture d'Hillary Clinton à Philadelphie. La candidate démocrate à la Maison Blanche, adoubée par ses pairs et par le perdant Bernie Sanders, qui s'exprimera dès l'ouverture de cette convention ce soir en signe d'unité. Une unité entachée ce week-end par la révélation du contenu de milliers de messages échangés entre responsables démocrates depuis des mois. Des messages au ton méprisant, des messages méfiants à l'encontre de Bernie Sanders, qui s'est toujours plein de la partialité du parti en faveur de sa rivale. La patronne des démocrates, Debbie Wasserman Schultz, a annoncé hier qu'elle démissionnerait en conséquence à l'issue de cette convention. Le réveil est brutal outre-Atlantique, il l'est aussi en Europe. On parlait de cette fusillade en Floride. C'est l'Allemagne qui est en Europe visée hier soir par un attentat suicide dans la ville bavaroise d'Ansbach. Un Syrien de 27 ans dont la demande d'asile avait été rejeté a actionné sa bombe aux abords d'un festival de musique. Faute de pouvoir y rentrer, 12 personnes ont été blessées, dont 3 grièvement. Ce jeune homme avait tenté par deux fois dans le passé de mettre fin à ses jours. Il avait aussi séjourné, apprend-on, dans une clinique psychiatrique. Le même profil que le jeune de 18 ans qui, vendredi soir, toujours en Bavière, est parvenu à tuer 9 personnes, en blesser 11 autres, dans une fusillade dans un centre commercial. Bonjour Willy Moreau.
Bonjour.
Est-ce que c'est la folie qui est en cause?
Cela peut être en tout cas un élément de réponse, mais ce n'est pas la seule explication. Beaucoup de psychologues expliquent qu'il faut une combinaison de facteurs pour qu'un individu passe à l'acte. Ici, dans le cas de troubles psychiatriques, l'influence de l'extérieur peut être très faible. L'individu est plongé dans sa folie à tel point qu'il en devient imperméable aux discours entendus dans les médias ou aux messages diffusés sur Internet. Ce sont des profils totalement différents des cas d'endiguement qu'on peut observer après certains attentats, explique Amélie Boukobza. Elle est psychologue clinicienne à Nice, spécialiste du djihadisme et psychologue au sein de l'association niçoise de déradicalisation, entre autres.
Un individu psychotique, c'est-à-dire réellement psychiatriquement atteint, on ne lui fait pas rentrer ce qu'on veut dans sa tête. Je veux dire, quand un individu a un véritable délire, le délire est extrêmement construit. Et on lui met pas ce qu'on veut dans son cerveau.
Mais pour Amélie Boukobza, la question est bien plus complexe. Pour elle, combinaison de facteurs oblige, le trouble psychiatrique doit être combiné avec une forme d'idéologie pour que l'individu passe à l'acte. Une idéologie islamiste ou non, ajoute-t-elle. C'est la raison pour laquelle les profils des auteurs d'attaques ou d'attentats sont plus ou moins les mêmes que ceux existant dans la société civile.
On observe, nous, sur le terrain, au niveau des profils, on a absolument tout le panel et le même panel que l'ensemble de la population générale. Donc, il n'y a absolument pas de spécificité psychiatrique, justement, ou psychopathologique parmi les profils des individus qu'on peut rencontrer.
Cependant, pour contrer les attaques de ces derniers jours, la psychologue met en avant l'accès aux soins comme solution possible. Car pour Amélie Boukobza, fou ou pas, le passage à l'acte est toujours le fruit d'un processus mental.
Willy Moreau, en Allemagne, après ces nouveaux faits de violence, le ministre de l'Intérieur rejette tout soupçon général contre les réfugiés, cherchant à éviter la psychose dans l'opinion allemande. Ce jeune homme, on le rappelle, avait 27 ans, réfugié de Syrie, entré en Allemagne il y a 2 ans. Sa demande d'asile a été rejetée il y a 1 an, mais ne risquait pas pour autant, selon les autorités, d'être expulsé, étant donné la condition, le climat en Syrie. En France, les suites de l'attentat du 14 juillet à Nice, avec les accusations de cette policière municipale, Sandra Bertin, qui évoque des pressions pour qu'elle modifie son rapport sur le dispositif de sécurité le soir du drame. On va revenir sur le profil de celle qui accuse, de cette policière. Mais d'abord, la réaction de celui qui est accusé de mentir, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. C'est une campagne de vilainie. Il riposte avec une plainte en diffamation. Et c'est sur cette idée du mensonge qui est revenu ce matin le Premier ministre Manuel Valls, invité d'RMC et de BFM TV.
Moi, je n'ai aucun doute sur Bernard Cazeneuve.
À aucun moment, vous vous êtes dit, bon, peut-être quelqu'un ment, et pourquoi ce ne serait pas
mais
Bernard Cazeneuve lui-même?
Pourquoi faudrait-il mentir? C'est cette idée du complot, du mensonge, de la remise en cause de ce que le préfet, les policiers, le ministre de l'Intérieur, le procureur, qui travaille de manière totalement indépendante, cette idée, au fond, que l'État ment, a quelque chose à cacher, alimente le doute. Nous ne sommes pas sur les causes de l'attentat. C'est une polémique purement politique. Et c'est là où nous sommes à côté de la plaque pour ceux qui visent à déstabiliser le gouvernement. Depuis le premier jour, l'ancien maire de Nice, Christian Estrosi, commençait cette polémique. Tout cela est indigne.
Manuel Valls répond à Christian Estrosi, une partie de la droite française aussi victime selon lui d'une trumpisation des esprits, allusion au candidat conservateur américain. C'est exactement la même méthode, dit-il, la violence politique, l'outrance, la mise en cause de la démocratie, les accusations lancées à l'emporte-pièce, la calomnie. De son côté, ce matin, le chef de l'État ferme le banc. François Hollande estime qu'il ne peut y avoir de polémique ou d'affrontement. Mais Christian Estrosi, ancien maire de Nice, élu en fin d'année dernière à la tête de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, insiste. C'était sur Europe 1 ce matin, il dénonce un affolement au sommet de l'État. Il se défend d'instrumentaliser les faits. Pourtant, le garde des Sceaux lui-même, le ministre Jean-Jacques Urvoas, suggère un lien entre l'élu, Christian Estrosi, et cette policière municipale, Sandra Bertin, qui accuse Marie Bonisseau.
Oh oui, alors ce lien n'est pas prouvé pour l'instant, mais il est vrai que les engagements politiques de cette policière sont assez clairs, notamment sur les réseaux sociaux, où Sandra Bertin s'exprime sous le même nom qu'elle utilise dans ses fonctions de policière, Sandra Tardei. Elle a Facebook, elle a Twitter et elle ne cache pas sa sympathie pour l'ancien maire de Nice, Christian Estrosi, ainsi que son antipathie pour la, je cite, « pseudo-politique socialo ». Entre autres, cette photo postée sur Facebook en février dernier, on y voit un prospectus de Monsieur Bibi, grand voyant médium, légende. J'ai trouvé le bras droit de Najat Vallaud-Belkacem. Tout ça, vous ne le verrez plus puisque la policière a fermé ses comptes cette nuit. La chef du service de vidéosurveillance de Nice est aussi engagée dans le combat syndical. Elle est secrétaire générale du SAFPT, le syndicat autonome de la fonction publique territoriale de Nice. Et c'est notamment à ce titre qu'elle signait, au lendemain de l'attentat et aux côtés d'autres syndicats, une lettre ouverte à Manuel Valls pour déplorer le manque de considération pour les policiers municipaux. De là à penser que Sandra Bertin est téléguidée par la droite niçoise, vous l'avez entendu, Jean-Jacques Urvoas, Manuel Valls n'ont pas hésité à franchir le pas. Accusation scandaleuse, a répondu Christian Estrosi, qui rejette donc toute instrumentalisation, même s'il n'a pas hésité à relayer largement l'interview donnée par la policière. Sandra Bertin, qui ne lâche rien pour l'instant, puisqu'elle devrait faire un signalement au procureur de la République pour faux en écriture publique dans la journée.
Marie Bonisseau, au lendemain des attentats de Paris du 13 novembre, 11 personnes avaient trouvé la mort dans un accident, l'accident d'une rame d'essai du TGV Est. On en avait peu parlé à l'époque. Ce matin, le journal Le Parisien, aujourd'hui en France, révèle le contenu d'une vidéo installée dans la cabine de pilotage, des images tournées 3 jours plus tôt lors d'un précédent essai à très grande vitesse et des difficultés déjà rencontrées par l'équipe à bord. Olivier Vogel.
Réduire la vitesse de 100 km/h en 1,7 km pour un TGV lancé à 330 km/h, mission difficile, c'est ce qui avait été mis en évidence 3 jours avant le drame sur cette portion de la LGV. Ce jour-là, le conducteur du TGV n'avait réussi qu'à réduire sa vitesse de 30 km/h, c'était encore 70 de trop, un top freinage donné trop tard, donc le problème, c'est que manifestement, personne n'en a tiré les leçons et 3 jours plus tard, la rame d'essai a déraillé sur une portion limitée à 176 km/h alors que le train fonçait à 243 km/h. Pour maître Gérard Chemla, l'avocat des familles de victimes de l'accident, la responsabilité est d'abord individuelle, elle incomberait au chef de traction qui supervisait les essais en cabine le jour du drame comme 3 jours plus tôt sans avoir tenu compte de ce problème de top freinage tardif. Mais toujours selon l'avocat, la responsabilité se situe également au niveau de la SNCF qui n'aurait pas rédigé de procédures particulières à ce sujet et qui en outre avait chanté le système de freinage automatique systématiquement activé sur les lignes commerciales et qui aurait permis d'éviter le drame. En tout cas pour l'avocat, tout cela a été géré de façon extrêmement légère.
Olivier Vogel de France Bleu Alsace. Où en est la Turquie? 10 jours après une tentative de coup d'État ratée contre le président Erdogan, depuis la répression est à l'œuvre, des milliers d'arrestations, plus de 60 000, dit-on, des militaires, des policiers, des magistrats. On apprend ce matin que des ambassadeurs turcs vont être relevés de leurs fonctions et maintenant, et toujours serait-on tenté de dire car cela n'a pas commencé aujourd'hui, la pression sur la liberté d'expression, sur les journalistes, avec ces mandats d'arrêt contre 42 d'entre eux. Dans ce tableau bien sombre, un rare geste de bonne volonté de la part d'Erdogan. Il doit rencontrer, Cécile de Kervas-Doué, tout à l'heure, les responsables de l'opposition.
Oui, alors bonne volonté ou stratégie à long terme? Les journalistes et universitaires turcs que j'ai eu au téléphone parlent d'une forme de schizophrénie quand je leur demande ce qui se passe en Turquie. D'un côté, le pouvoir d'Erdogan permet, c'est vrai, hier, à l'opposition de manifester. De l'autre, les purges s'intensifient. Vous l'avez dit, 60 000 personnes ont été arrêtées, avec parmi eux des militaires, des enseignants, des magistrats ou fonctionnaires, des intellectuels. 15 universités ont été fermées ce week-end, 1 millier d'associations ont été interdites, 900 écoles privées ont été interdites. Les universitaires turcs installés à l'étranger sont priés de revenir au pays sous peine d'être considérés comme des opposants. Et ce matin encore, les ambassadeurs turcs sont relevés de leurs fonctions pour certains et 42 journalistes ont été arrêtés ou en tout cas sous la coupe de mandat d'arrêt. J'ai pu joindre ce matin le journaliste turc Erol Oskoa. Il dit être l'un des premiers journalistes victimes de cette purge d'Erdogan. C'était il y a 2 ans pour son livre sur la révolte de Gezi. Il a été condamné à 1 an de prison, d'où sa fuite l'année dernière en Suède. Et pour lui, il le répète, toute cette purge n'est pas une surprise, c'est une stratégie.
Ce que veut Erdogan, c'est vider complètement l'essence de l'État classique et pour mettre en place ses partisans. Donc, il ne s'agit pas d'un purge des militaires seulement. Il s'agit d'un purge de tous les kémalistes, les laïcs, les vrais opposants, des gens de gauche, des libéraux, etc. Il essaye de vider le contenu même de cet État pour mieux institutionnaliser son État islamique. Et le but, c'est de passer à ce nouvel État en 2023, c'est le centenaire de la République laïque. Donc la Turquie est en passe de devenir un second Iran.
Et c'est précisément pour arriver à cette fin que le président Erdogan rencontre aujourd'hui les membres de l'opposition parce qu'il a besoin du soutien d'autres partis pour pouvoir installer le changement constitutionnel qui lui permettra d'imposer son régime présidentiel.
En Irak, 15 morts hier lors d'une explosion dans un quartier chiite de Bagdad et 12 morts au moins ce matin dans un autre attentat suicide. Un autre décompte macabre dans un autre pays de la région profondément déstabilisé, l'Afghanistan. Selon un décompte de l'ONU, plus de 5000 victimes, des morts et des blessés sur les 6 premiers mois de l'année. La situation sécuritaire en Afghanistan ne cesse de se dégrader depuis le départ des forces de la coalition occidentale à la fin de l'année 2014. Aux talibans, il faut ajouter aujourd'hui la menace de l'État islamique, de Daesh, qui s'est implanté dans l'est du pays. Le dernier attentat suicide, c'était avant-hier, samedi, revendiqué par l'État islamique. Plus de 80 morts, plus de 230 blessés dans le centre de Kaboul. Valérie Crova a joint Karim Pakzad, chercheur à l'IRIS.
La situation sécuritaire en Afghanistan est inquiétante sur deux points. D'abord, l'opposition armée, à savoir le mouvement qui aujourd'hui est ouvertement à caractère terroriste comme les talibans, et puis Daesh qui depuis un an a pris le pied dans l'est de l'Afghanistan, crée une situation où l'insécurité est permanente au travers de l'Afghanistan et partout, et non pas seulement à l'est de l'Afghanistan. Je viens de rentrer de Kaboul où j'ai séjourné presque un mois et visité plusieurs provinces. Aucune partie de l'Afghanistan, à l'exception peut-être de la vallée de Panjshir et de Bamiyan, ne se sent pas en sécurité. L'Afghanistan traverse une situation qui est semblable vraiment à ce qui se passe en Irak et en Syrie sur le caractère de danger. L'essentiel est que l'État afghan est faible. C'est-à-dire que la communauté internationale des Américains, en particulier, une fois qu'ils ont décidé de partir, enfin de mettre fin à la mission de l'OTAN en Afghanistan, ils n'ont pas fait suffisamment attention aux particularités de ce pays et ils ont laissé sur place un pouvoir faible. Il n'a pas le soutien de la population. Donc, vous êtes en face d'une situation où la structure de l'État est aussi faible. Alors, les talibans, d'une part, essentiellement les talibans, mais aussi les Daesh, profitent de cette situation pour avancer et déstabiliser davantage le pays.
Le chercheur à l'IRIS, Karim Pakzad, vous l'avez entendu, tout juste de retour de Kaboul, interrogé par Valérie Crova. Un petit mot de météo de ce lundi 25 juillet, nuageux au nord, temps variable ou ensoleillé partout ailleurs et des températures estivales 24 à 27 degrés au nord de la Seine, jusqu'à 33-34 degrés sur les bords de la Méditerranée. Édition réalisée avec François-Charles Domergue. Je vous retrouve pour le prochain journal, ce sera à 18h.